Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre hors-série dédié à la préparation Ironman. Comme on en a maintenant l'habitude, je retrouve mes coéquipiers de club, Arnaud. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Écoute, il fait beau, donc très bien.
L'entraînement continue?
Plus que jamais.
Très bien. Et toi Thomas, est-ce que l'entraînement continue aussi?
Salut Greg, oui en effet, on continue toujours de rouler, nager, on commence tout juste et puis on continue de courir et rouler à fond.
Très bien. Et puis on accueille Steve également, Steve à qui il est arrivé très récemment une petite mésaventure. Je te vois couché dans un lit tout blanc, Steve, qu'est-ce qui t'arrive?
Eh bien salut à tous, effectivement j'ai fait une petite sortie rando trail hier en montagne et j'ai une grosse entorse à la cheville avec... une opération prévue pour jeudi, fracture de la malléole externe.
Sale coup, vraiment sale coup.
Un gros bobo. Ouais. Donc pour moi, la préparation et l'entraînement, c'est stop pour quelques semaines. Ouais. Pour tout l'été, je pense.
Eh ben écoute, malheureusement, je peux que compatir en sachant que trop bien ce que c'est d'être dans ta position, puisque je l'ai connu il y a vraiment pas très très longtemps. C'est pas des périodes qu'on aime en tant que sportif. En préparant l'épisode, Thomas demandait si c'était raccord avec la thématique de l'enregistrement qu'on avait déjà prévu aujourd'hui, hein, parce qu'on avait prévu de parler de blessures et puis d'affronter les blessures dans un entraînement type l'entraînement qu'on suivait pour l'Ironman, mais n'importe quel type de blessure pour n'importe quel type de préparation sportive. Et puis pour ça, eh bien, on accueille un invité, c'est Sébastien Talabardon, qui est... toi, tu es physiothérapeute, c'est ça?
Je suis ostéopathe et physiothérapeute.
Très bien. Donc, bienvenue Sébastien dans ce podcast. Peut-être avant qu'on commence avec le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un petit peu déjà la différence qu'il y a entre l'ostéopathe et puis le physiothérapeute et puis un petit peu quelle est ton activité et puis en quoi ça consiste au quotidien?
Alors bonjour à tous, je suis ravi de participer à votre podcast et puis à intervenir sur justement la prise en charge des sportifs blessés. Donc je suis ostéopathe à Puy, au cabinet osteokinetic.com et comme tu disais avant, j'ai aussi une casquette de physiothérapeute et tout ça remonte au moment où j'étais sportif, j'étais cycliste professionnel pendant 5 ans, de l'année 2000 aux années 2005. Et puis, j'ai eu la chance de participer au Tour de France en 2001. Et c'est là que j'ai rencontré justement des ostéopathes et physiothérapeutes avec qui on était en contact de façon régulière. Et ce qui m'a permis, ce qui m'a donné goût d'aller vers cette reconversion. Donc après, j'ai été physiothérapeute pendant 15 ans. Je suis toujours, j'ai toujours une casquette de physiothérapeute actuellement. Et j'ai suivi des équipes sportives justement en physiothérapie. Et puis, j'interviens aussi au sein de certaines entreprises parce que au-delà du sport, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas mal les problèmes de dos. Et puis, depuis maintenant 7 ans, je suis diplômé d'ostéopathie. Et c'est une pratique que je mettais en complémentarité, on va en reparler sûrement après, dans mes consultations en physiothérapie. Et puis là, depuis justement un an, j'ai décidé d'ouvrir une antenne un peu vraiment typée uniquement ostéopathie appui, où ça me permet d'avoir un peu plus de temps et puis un peu plus de temps dans la consultation. Alors, peut-être qu'on peut revenir, si tu veux, sur la différence, effectivement, physiothérapie et ostéopathie. C'est souvent la question qui revient. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prise en charge des blessés et des sportifs blessés, on va dire, et Steve, il va rencontrer un peu toutes ces personnes-là ces prochains jours, il y a effectivement le chirurgien du sport, que tu vas bientôt voir. Derrière, je pense que tu as un médecin du sport qui te suivait par rapport à justement ta pratique du triathlon. Et puis, derrière vient se greffer effectivement le physiothérapeute, l'ostéopathe, l'entraîneur sportif. Et dans les acteurs, justement, du sportif, je mets souvent aussi les amis qui sont sportifs. Et c'est un peu le cercle que vous me décrivez actuellement, c'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer de donner des conseils aux gens avec qui vous faites du vélo. Et ça, vous êtes les premières personnes, justement, qui sont importantes dans un cercle d'un sportif. Et donc, l'ostéopathe et le physiothérapeute, bah, la différence, c'est que déjà, on va parler de... ce sont tous les deux des thérapeutes manuels. Donc, c'est ce qui les regroupe. C'est qu'on fait vraiment de la thérapie manuelle, autant en ostéopathie qu'en physiothérapie. Maintenant, ça va être deux visions totalement différentes, enfin, pas totalement différentes, qui vont être complémentaires, justement. Visions différentes dans le sens où le physiothérapeute, qui est aussi appelé kinésithérapeute en France, c'est les seuls à les appeler comme ça, masseur kinésithérapeute. Dans le reste du monde, on appelle ça physiothérapie et physiothérapeute. Donc, il n'y a aucune différence entre kiné et physio. Et donc, le physiothérapeute, bah, lui, il a une vision assez symptomatique du problème. Symptomatique du problème, c'est-à-dire que tu as un problème à la cheville, tu t'es fait une entorse. Bah, voilà, il va être sur le symptôme, il va être sur la douleur, sur la localisation de la douleur. Si je fais un peu de façon très schématique, hein. L'ostéopathe, lui, il va être beaucoup plus systémique, c'est-à-dire qu'il va avoir une vision beaucoup plus globale. Et au-delà de s'intéresser uniquement à ta cheville, il va aussi s'intéresser peut-être à ton déséquilibre du bassin qui a provoqué peut-être un mauvais appui, ou bien une mauvaise. Il va travailler un peu plus loin et même travailler sur ce qu'on appelle des sphères, la sphère crânienne, le crâne, ou la sphère viscérale, tout ce qui est foie, intestin, qui peut avoir aussi qui peut amener des problématiques chez les sportifs ou des problématiques chez les non-sportifs, des douleurs d'épaule qui peuvent être dues au foie, tout ça. Donc, en fait, l'ostéopathe et le physiothérapeute se différencient un petit peu par leur vision du problème, un peu plus centré pour le physiothérapeute, un peu plus global pour l'ostéopathe.
Est-ce que si je dis que l'ostéopathe, on va plutôt le voir en préventif et puis le physiothérapeute en réactif suite à une blessure, est-ce que c'est complètement faux ou est-ce que c'est un peu l'idée ?
Non, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que la force du physiothérapeute, c'est quand même d'être beaucoup plus sur de la rééducation, sur du renforcement, sur... travail un peu des fois dans l'urgence, on va dire. L'ostéopathe, souvent ceux qui vont aller voir l'ostéopathe, c'est déjà des gens qui ont un peu une conscience de leur santé et qui veulent prendre les choses un peu en amont, en essayant de régler des problèmes de sommeil, de régler des problèmes de douleur de dos par rapport à une vision plus globale et plus préventive peut-être, ouais, comme tu dis.
Ouais, effectivement. Donc, Steve va connaître un petit peu cet environnement-là. Moi, je l'ai bien connu ce début d'année. Ceux qui ont suivi le podcast ont entendu qu'au début de l'année, donc sur un parking en rentrant du ski, bah, voilà, suite à une bête chute, je me suis cassé le coude. Donc, il y a eu opération ostéosynthèse, etc. Donc, après, maintenant, enfin, je suis toujours régulièrement chez ma physio pour essayer de retrouver toute la mobilité de mon bras. Donc là, effectivement, c'est vraiment le mode plus réactif suite à l'accident que j'ai eu à faire à la physiothérapie. Et puis, c'est vrai qu'avant, lorsque je traitais les petits bobos, ou que j'essayais en tout cas de les prévenir, bah, j'allais régulièrement chez mon ostéopathe avant cette crise du Covid. Donc, voilà, c'est vraiment deux traitements un petit peu différents. En tout cas, la perception que j'en avais et puis l'expérience que j'en ai, en tout cas, ces derniers temps. On enregistre cet épisode à l'initiative de Arnaud, hein, qui nous a proposé d'inviter Sébastien. Donc Arnaud, j'imagine que tu connais Sébastien aussi parce que tu vas chez lui pour gérer un petit peu de la bobologie, ou alors peut-être même des blessures un petit peu plus conséquentes. Est-ce que toi, tu as une expérience de blessure, justement, récente, que tu voudrais partager dans cet épisode ?
Alors, vouloir partager, c'est un grand mot, mais oui, en effet, il y a une expérience en tout cas qui est intéressante sur comme on l'a dit dans différents épisodes, c'est un peu plus l'apprentissage et la perception de chaque petit élément qui gravite autour du sport et de ce sport-là. Donc, on avait vu l'alimentation, la préparation mentale, etc. Et là, c'est vraiment juste l'aspect biomécanique j'ai eu tendance à mettre trop de côté quand je m'entraînais et je me concentrais exclusivement sur l'exercice, l'entraînement, les sorties, se donner à fond, progresser, ressentir tout ça, etc. Mais j'ai énormément négligé toute la partie un peu en fond qui viendrait aussi comme l'alimentation, hein, la partie donc de l'échauffement, de l'étirement aussi, et simplement prendre soin de son corps, parce que c'est la première chose qu'on utilise du coup lors d'un entraînement ou d'une compétition. Et récemment, ce qui m'a fait prendre vraiment conscience de ça et le besoin, c'est simplement que mon corps m'a stoppé. J'ai eu un peu comme tout le monde, j'imagine, des petits soucis avec des entorses, des choses comme ça. Mais j'ai eu un problème un peu plus profond qui a été diagnostiqué aux alentours de octobre-novembre suite à une saison qui avait été peut-être un peu chargée et qui ensuite s'est réduit en septembre. Et c'était donc une aponevrosite plantaire, donc une inflammation de la voûte plantaire donc sur cette partie qui s'appelle l'aponevrose. Alors, je ne rentrerai pas forcément dans le détail sur la description parce que nous avons un spécialiste avec nous et donc je n'oserai pas à le décrire comme il faut. Mais dans l'idée, c'est que y a un dysfonctionnement au niveau de ma motricité qui fait que cette petite bande de tissu du fascia qu'on retrouve partout dans le corps, hein, mais spécifiquement celle-ci sous la voûte plantaire, exerce un rôle qui est pas normal et essaye de contrebalancer en fait un dysfonctionnement au niveau du reste de la chaîne entre le genou, la hanche, etc. Et aussi en partie de la cheville et qui m'a contraint vraiment à arrêter de courir, chose qui m'était jamais arrivée auparavant, même si j'avais déjà eu typiquement le syndrome de l'essuie-glace qui avait été finalement réglé assez rapidement. J'ai eu vraiment ce problème que je traîne encore aujourd'hui. Alors la douleur est moindre et justement je pense Sébastien pourra commenter là-dessus, mais en tout cas c'est une longue bataille qui fait réfléchir et qui fait prendre avec beaucoup d'humilité justement la manière dont on utilise notre corps lors de ces phases d'entraînement. Donc c'était peut-être une réponse assez longue, mais voilà l'expérience que j'ai actuellement. J'ai dû arrêter la course à pied pendant facilement 4 mois. Et donc du coup, là où ça a été intéressant, si je résume en deux points, le premier c'est donc ma prise de conscience sur prendre un peu plus soin justement de ces phases non sportives associées à prendre soin de son corps via des automassages, étirements et donc échauffement plus ciblé. Et puis le deuxième point, c'est le retour à la normale, si je peux dire, avec un protocole très précis que Sébastien avait communiqué avec moi en fonction de ma charge d'entraînement et en fonction de mes besoins pour quelque chose d'optimal et aujourd'hui qui semble payer. Voilà.
Ça, c'est super intéressant parce que la blessure, comme tu la présentes, ça peut être une aponevrosite plantaire, ça peut être le syndrome de l'essuie-glace, ça peut être une périostite, ça peut être mille et une blessures différentes. Mais en gros, la problématique, elle est toujours un petit peu la même, c'est que elle nous empêche de nous entraîner comme on voudrait. Et puis, au-delà de la blessure elle-même, qui a un niveau de gravité objectif qui est probablement relativement limité par rapport à ce que a subi Steve par exemple, ou une fracture ou quelque chose de plus grave, mais une fascite plantaire, c'est pas forcément super grave. Par contre, au niveau psychologique, quand on est un petit peu dans le stress, on se dit il reste plus que 2 mois avant ma compétition, etc., on peut tout de suite en faire un immense drame et puis commencer à se faire énormément de films dans sa tête sur sa blessure et puis ne pas savoir comment la gérer. Et puis ça peut même engendrer une certaine panique par rapport à ça, puis à la compétition et puis la saison qui arrive. Et donc effectivement, gérer ça avec calme, avec une stratégie qui est développée dès le début, c'est comme tu le dis, super important. Et puis ça, je pense que le sportif tout seul, il aura beaucoup de peine à le faire et puis à aborder ça de manière sereine et posée s'il n'a pas un spécialiste à côté de lui, ou en tout cas quelqu'un qui calme un petit peu le jeu, quoi, je dirais ça comme ça.
Ah, je t'ai juste quand même à repréciser, parce que tu dis que, évidemment, par rapport à une fracture ou quelque chose de très grave, c'est peut-être moins bloquant, l'aspect fascite ou aponevrosite, mais d'un point de vue quand même, tu l'as mentionné, donc psychologique ou mental, ce que j'ai trouvé très dur, c'est chaque jour, en fait, de se lever, parce que c'est vraiment le symptôme de base, hein, c'est tu te lèves, tu poses ton pied, t'as mal. Et quotidiennement, jour après jour, semaine après semaine, de ne pas avoir une seule once de changement, c'était quand même relativement compliqué. Et au-delà de la compétition en elle-même, c'était vraiment de pas avoir l'impression de guérir, si tu veux. Donc c'est quand même pas à négliger, parce que étant donné que c'est vraiment le pied, je ne vais pas parler de soulagement, mais tu ne peux pas vraiment contrebalancer cette douleur autrement, quoi.
Ouais, ou te dire je ne l'utilise pas pendant 3 jours, puis ça va passer. Tu es bien obligé de marcher, de tenir ton poids du corps dessus, etc., quoi.
Exact, ouais.
Donc ce type de blessure, Sébastien, bah, j'imagine déjà que quand on a été sur le Tour de France, on en rencontre forcément à tort et à travers, et puis il faut savoir les affronter. Arnaud nous disait que on en revient en élaborant une stratégie. Alors j'imagine déjà que la stratégie, elle est adaptée par rapport à l'athlète, par rapport à son historique, par rapport à son volume d'entraînement, par rapport à ce à quoi pour lequel il s'entraîne, mais également par rapport à la gravité de la blessure et puis au entre guillemets handicap qu'elle provoque. Comment est-ce qu'on fait le bilan de la blessure avec un athlète et puis qu'ensuite on élabore sa stratégie pour essayer de s'en sortir?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quasi, allez, on va dire, c'est un chiffre comme ça, hein, c'est 80% des blessures chez les sportifs, en grande partie, donc à 80%, on est sur un changement d'environnement. Je ne parle pas de Steve qui va devoir effectivement se faire opérer, mais je parle plutôt des pathologies un petit peu plus comme celle d'Arnaud, où là, justement, c'est l'environnement qui peut être problématique, où il faut qu'on aille chercher quelque chose. Dans le sens où, en fait, le changement d'environnement, ça peut être le changement de matériel. Donc ça, c'est hyper important et il faut y prêter attention. Le changement de technique, le changement d'entraînement, le changement d'objectif, tous ces changements, ou même le changement de charge. Là, typiquement, Arnaud, il est passé d'une charge beaucoup plus importante, peut-être d'une année sur l'autre, et puis il est passé à un moment donné sur une phase de récupération, parce qu'on dit qu'il faut récupérer, que c'est bien de se faire un mois de pause, et ça, on pourrait y revenir après. C'est recommandé chez des jeunes athlètes, chez nous, les personnes de la quarantaine. C'est pas ce qu'on recommande, en fait. On recommande justement de... Alors moi, je parle pour moi, hein, quarantaine, excuse-moi Arnaud. C'est pas recommandé dans le sens où, en fait, un sport qui est porté comme la course à pied, bah, à 40 ans, il faut quasi plus s'arrêter. Alors diminuer la charge, oui, mais il faut être en continu en train de courir, parce qu'on a des niveaux dans votre corps. Vous avez des niveaux, un niveau... qui est dû à votre cardiovasculaire, un niveau tissulaire, un niveau tendineux, un niveau musculaire, un niveau osseux, qui ne fonctionne pas de la même manière. Dès que vous arrêtez de courir, bah, en fait, les niveaux baissent de façon différente. Et quand vous reprenez, bah, en fait, ces niveaux, vous allez les récupérer à des niveaux tellement différents que là, une blessure peut intervenir. C'est pour ça qu'en fait, sur la partie reprise de sport, il est hyper important d'y aller très progressivement et de façon très régulière. Donc, la première chose, c'est vraiment de prendre conscience que l'environnement, ça va être la première chose, moi, en tant que thérapeute, que je vais aller essayer d'aller palper, de voir un petit peu par différentes questions, effectivement, le bilan, l'historique, mais voir qu'est-ce qui a pu déclencher cette douleur. Parce que tout allait bien, et puis d'un coup, bah, tiens, j'ai une fascite plantaire, une inflammation sous le pied, sans raison particulière. Donc ça va être important. Ensuite, je travaillais avec une prescription médicale, donc pour ce qui est de la physiothérapie. Donc, j'ai un diagnostic d'un médecin, mais souvent, cette prescription médicale, si tu veux, elle a déjà un terme très générique. Voilà, tu arrives, tu as une fascite plantaire, j'ai 9 séances. Qu'est-ce que je fais avec, effectivement, ce décodage? Et en fait, ce décodage, je vais le faire avec le patient en lui demandant ses antécédents, les notions qu'il a d'un point de vue sportif. C'est hyper important, les notions, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de gens maintenant, on lit partout qu'il faut courir peut-être avant pied, il faut arrêter talon, il faut courir à 170, 180 par minute, cadence. Mais tout ça pour monsieur tout le monde ou celui qui se met à courir, c'est un élément qu'il va garder en tête, mais il y a plein de choses qu'il va falloir mettre autour. Donc, les notions sont importantes. La compréhension de comment mon patient ou comment je communique avec mon patient est hyper importante. Et tout ça, il va falloir le mettre à plat. Donc, c'est effectivement au début, si on met tout à plat, moi, je veux tout savoir du patient. Et des fois, je pose des questions alors qu'ils vont un petit peu vers l'ostéopathie parce que j'ai cette fibre de l'ostéopathie et j'ai envie d'en savoir des fois un peu plus. Mais voilà, on met tout à plat pour essayer de se dire, bon, là-dessus, il va falloir bosser les notions parce que finalement, ton problème de chaussures que tu as changé, peut-être que c'était peut-être pas une bonne idée ou peut-être que la manière dont je m'explique n'est pas suffisamment bonne pour que tu comprennes comment on va avancer. Et à partir de là, j'essaye souvent à la première séance de faire une stratégie thérapeutique et de mettre en accord avec le patient. Et c'est ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais rien faire pour vous. En revanche, vous, en tant que patient, c'est vous qui allez tout changer. Et donc, si la motivation n'est pas là ou si tu as l'impression que je parle chinois, à un moment donné, tu ne vas pas avancer. Donc, l'idée, c'est vraiment que déjà, dès la première séance, on arrive à mettre tout de notre côté pour être d'accord sur la direction qu'il faut prendre.
Donc, c'est vraiment une stratégie où le patient, il est embarqué dans l'élaboration, en fait, de la stratégie à moyen, long terme, dès le début du traitement.
Ouais. Alors, embarqué, c'est plutôt en accord, si tu veux. Ça, c'est hyper important que le patient soit en accord parce que, comme l'a dit Arnaud, entre effectivement la cheville de Steve et le problème d'Arnaud, il y a vraiment une problématique, c'est que Arnaud, dès le début, je lui ai dit, ça va être long. Hein. C'était pas un secret entre nous, une fascite plantaire. À partir du moment où tu fais du sport régulièrement, que tu es tout le temps en train de charger un petit peu, c'est pas comme si tu t'étais fait un peu une épaule. Tu peux éviter pendant 15 jours de t'appuyer dessus. Là, ton pied, malheureusement, tu es quand même censé marcher régulièrement dessus. Donc, il y a quand même un côté difficile. Et chez des sportifs comme vous, y a un côté des fois même dépression, quoi. C'est-à-dire que comment je vais… mon quotidien tourne quand même pas mal autour du sport et ça permet d'équilibrer mon stress du quotidien. Et là, demain, je dis à Arnaud, mais t'arrêtes de courir. Je pense qu'effectivement, il faut que je lui dise de faire autrement. Alors lui et vous avez la chance de faire un sport où vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire de la natation et vous pouvez faire de la course à pied. Donc, effectivement, mettre un peu en stand-by la course à pied, c'est moins une problématique parce que là, pour le coup, vous pouvez mettre un peu plus l'accent sur le vélo, un peu plus l'accent sur la technique en natation. Et puis, sur la partie course, on va mettre l'accent plutôt sur la technique et voir ce qui n'allait pas avant pour en profiter pour faire un peu le nettoyage et de voir un petit peu tout ce qu'on peut vraiment reconstruire de façon pérenne pour l'avenir.
Donc du coup, le cas pratique, donc Arnaud avec sa fascite plantaire, la stratégie, ça a été quoi? Ça a été de changer ta technique de course à pied, déjà une reprise progressive, j'imagine, de la course à pied, et puis ensuite de changer la technique ou de changer de chaussures, ou quelle a été l'approche concrète dans ta blessure?
En fait, le problème de la chaussure et de la technique, là, il vient plus tard. Parce qu'en fait, Arnaud, il avait sa technique. Vous aviez votre technique avant d'être blessé. Donc, la technique, on va plutôt aller la voir dans un second temps parce que je ne pense pas que ce soit une problématique. Là, au moment où il vient me voir au tout début, on est vraiment dans une phase de rééducation où là, il y a de l'antalgie à faire, il y a retrouver de la mobilité au niveau des tissus, il y a de nouveau retonifier un petit peu certaines zones qui se sont un peu sidérées par rapport à justement la douleur. Donc, je parle, par exemple, chez Arnaud, c'était peut-être, il y avait le mollet, donc on a fait du dry needling sur le mollet, on a fait du dry needling sous la voûte plantaire pour détendre un petit peu tout ce qui était musculaire. De l'algie, on a essayé de trouver des moyens pour justement mettre un peu au repos cette zone qu'on avait besoin. Et puis, à partir de là, en fait, là, on a fait une petite protection de la zone. Et derrière, après, il fallait réadapter les tissus. Donc, on a fait effectivement un programme de course qui est assez classique en programme course-marche, où justement, l'idée, c'était de reprendre la course. On était à quoi ? Une minute de course, une minute de marche, très frustrante. Mais moi, je fonctionne beaucoup à la frustration. C'est-à-dire que j'aime bien que mon patient rentre chez lui de façon frustrée, mais positivement. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui, « Ouais, j'aurais bien voulu en faire plus. » Mais finalement, il y a un cut-off qui te dit « Non, tu rentres à la maison. » Et à partir du moment où il y a cette frustration positive, il y a quelque chose déjà au niveau de ta récupération qui va être dans la croissance et pas dans justement le fait de se démolir encore plus. Et la deuxième chose qui a été, je pense, important avec Arnaud, c'est de changer un peu le curseur de la problématique. Pour lui, la problématique, c'était dès que je mets mon pied par terre, j'ai mal. Et en fait, l'idée, c'était, OK, t'as une douleur, bah voilà, elle est à... C'est pour ça que souvent, on vous pose la question, vous n'aimez pas trop cette question, à combien t'évalues ta douleur ? Et là, vous êtes « Ah, mais ouais, je ne sais pas quoi dire. Hein. » Donc, effectivement, vous ne savez pas quoi dire, sauf que cette échelle est la vôtre, votre propre échelle. Donc, on part sur quelque chose sur lequel on va pouvoir se référer plusieurs fois. Et là, il me disait « Ma douleur, elle est à 2, 3, mais elle est continue. » OK. Et donc là, on a commencé à faire le programme de course, une minute de course, une minute de marche. On a commencé à augmenter avec des 5 minutes de course, une minute de marche. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai fait un retour vers lui. Je lui dis « À combien t'es en douleur ?» Il me dit « J'ai toujours 2-3. » Et en fait, l'important, c'était quoi ? C'était le delta qu'il y avait entre la douleur et la fonctionnalité. La douleur, si elle est à 2, moi, ça ne me dérange pas trop. Mais si elle commence à augmenter quand il commence à courir, elle augmente le soir ou elle augmente le lendemain matin, là, il y a une réelle problématique pour moi. Et là, je dois faire un retour en arrière sur ma manière de travailler avec Arnaud. Là, il n'y avait pas de problématique. Lui, il était à 2 et il augmentait progressivement le delta qui était hyper important et je devais donner de l'importance à ce delta qui augmentait. Et là, maintenant, peut-être qu'il a toujours cette douleur à 1-2, mais on sait qu'elle va être longue, cette douleur, enfin, qu'elle va mettre du temps à passer. Maintenant, on n'est pas en train de faire quelque chose de mauvais sur son aponévrose plantaire, en fait.
Voilà. Et donc cette stratégie basée sur la frustration, Arnaud, pour toi, elle a fonctionné et maintenant tu cours normalement, enfin sans douleur, sans blessure.
Disons que je suis revenu à des sorties qui sont plus ponctuées de marche, donc j'arrive à voilà maintenir un rythme et puis courir voilà sans m'arrêter. Après sans douleur. Non, j'arrive pas à cette sensation que j'avais auparavant. J'ai toujours un petit peu ce souci, que ce soit voûte plantaire ou au niveau du tendon d'Achille. Mais ça ne me bloque plus du tout pour vivre au quotidien, disons. Parce que même si on mentionnait l'échelle de la douleur, qui est relativement faible, il y a toujours quand même ça qui te trotte dans la tête, quoi. Et c'est plus ça le problème.
Et puis, au-delà de l'exercice marche-course, est-ce qu'il y a des exercices d'étirement ? Est-ce qu'il y a des autres exercices à la maison ? C'est un petit peu la deuxième partie dont tu parlais, Sébastien, au tout début de l'enregistrement de ce podcast, c'est-à-dire que pour traiter la blessure, on va peut-être aussi utiliser des moyens de récupération et puis de prévention de la blessure ou en tout cas des choses que les sportifs connaissent comme par exemple des étirements, comme par exemple choisir une alimentation plus saine, donc un petit peu qui est censée éviter les blessures, de faire des automassages. Il y a aussi l'électrostimulation qui est pas mal répandue chez les sportifs. Est-ce que tout ça c'est des choses que tu recommanderais aussi dans des cas comme celui d'Arnaud ou alors quand on a des blessures musculaires ou tout autre type de blessure?
Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement, après, on va utiliser un arsenal d'outils thérapeutiques qui vont rentrer en jeu. Là, on a utilisé le traitement par onde de choc, justement, pour aller revasculariser un petit peu plus la zone au niveau de la voûte plantaire. On a fait du renforcement spécifique au niveau du pied. Stretching, on en a fait, mais faut faire attention avec les étirements parce que ça va avoir tendance à augmenter un peu la longueur du tissu, et ça va pas être non plus très très optimal pour la suite. Mais ça fait partie effectivement, mais faut y faire attention. On va utiliser, alors comme tu dis, la nutrition. Alors moi, c'est moins ma partie. Et ça, je fais plutôt confiance justement à des nutritionnistes pour qui c'est le métier. Mais effectivement, moi, j'inclus ça dans ce qu'on appelle les modulateurs de la cicatrisation ou de la croissance. C'est-à-dire que le sommeil, la nutrition, toutes ces choses-là sont hyper importantes pour bien cicatriser et consolider. Typiquement, pour Steve, ça va être hyper important effectivement d'avoir une alimentation saine, d'éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui va acidifier un petit peu justement le corps et le rendre moins cicatrisant pour l'avenir. Et on met toutes ces choses en place pour aider le patient. Ouais. Et après, tu me parles d'électrostimulation, je reviens dessus. L'électrostimulation, en fait, on se rend compte qu'il y a des études qui montrent que le renforcement sous la voûte plantaire est intéressant avec justement l'électrostimulation. Quand 3-4 semaines, on arrive à tonifier des muscles qu'on n'arrivait plus à tonifier, parce que faut bien voir que votre pied, souvent, on a du mal à le mobiliser parce que justement, on a une mauvaise conscience du pied. Et l'électrostimulation va donner une meilleure conscience du pied et renforcer les muscles intrinsèques, donc les muscles qui sont vraiment propres au pied. Maintenant, pour ce qui est du renforcement global, même dans le cyclisme, on l'utilisait peu. Pour moi, il a deux sens. C'est quand on est vraiment démusclé, et typiquement Steve, quand il va sortir un peu de la rééducation, de la chirurgie, peut-être que ça serait intéressant qu'il retonifie ses muscles via de l'électrostimulation. Ou bien, en termes de performance, là, on est à la limite de ce qu'on est capable de faire au fitness pour soulever de la charge et pour gagner du muscle. Là, ce qu'on va faire, on va venir mettre de l'électrostimulation pour aller chercher les dernières fibres qu'on n'arrive pas à renforcer de façon volontaire, et on va aller les stimuler. Mais entre ces deux extrêmes, ça, c'est un peu difficile. Nous, on l'utilise même plus en rééducation parce qu'il y a tellement de choses à faire autres qui sont beaucoup plus intéressantes que ça. Mais pour le pied, il y a pas mal d'études qui montrent que finalement, ça peut être intéressant.
Alors, on va peut-être sortir du sujet parce que je sais que Arnaud et Thomas sont des utilisateurs, alors pas forcément assidus ou très réguliers, je sais pas, de l'électrostimulation, mais en tout cas, je sais que tous les deux, vous avez un appareil Compex, moi j'en ai un aussi. Steve, toi, tu dois en avoir un aussi. Donc, la plupart d'entre nous au club, en tout cas, en disposant d'un de ces appareils, et personnellement, en tout cas, je l'utilise beaucoup, et pour pas dire exclusivement, dans les phases de récupération, c'est-à-dire qu'après une grosse sortie vélo, je le mets sur mes quadriceps ou sur les ischios, et puis je fais un programme de récupération dessus, et puis ça me gigote mon muscle pendant 20-25 minutes à l'intensité que j'ai choisie. Est-ce que ça, au niveau de la récupération, alors on sort un tout petit peu de la thématique blessure, mais est-ce que ça fait sens, et puis est-ce qu'il y a des bienfaits qui sont prouvés de l'électrostimulation pour ça?
Alors effectivement, pour la récupération, pour tout ce qui est vascularisation, capillarisation, c'est assez efficace. Et je pense qu'en complément, si vous n'avez pas le temps d'aller vous faire des massages, parce que moi, je serais plus basé effectivement si vous êtes sur une croissance de performance, que vous êtes vraiment en train de faire des blocs d'entraînement, d'aller quand même essayer d'aller voir une personne qui masse, peut-être une fois toutes les deux semaines, mais ça a vraiment une utilité pour une excellente récupération. Parce qu'en fait, ton électrostimulation, elle va agir de façon très globale sur l'ensemble de ta jambe. Tandis que le masseur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas perdre de temps, il va vraiment aller sur les points de contracture et il va aller être efficace sur le relâchement. Et souvent, on retrouve, nous, des patients qui viennent avec des mollets hyper contractés. Et même la sensation des fois c'est une sensation limite de déchirure au niveau du mollet. Donc ils viennent voir le médecin, ah bah tiens, j'ai fait, je me suis fait une déchirure, et finalement c'est une hypercontraction de certaines fibres musculaires qui pourrait être éliminée via du massage. Alors nous, on l'élimine via le dry needling et les aiguilles d'acupuncture qu'on vient mettre au contact du muscle, parce que c'est hyper efficace. Mais je pense qu'au quotidien, le massage, si vous êtes dans la performance, il est hyper intéressant. Dans la en complément de récupération, le complex viendra effectivement être intéressant dans un second temps, ouais.
En substitution, on en parlait justement nous en camp d'entraînement, c'est là qu'on l'utilise je pense le plus, hein, Thomas et Arnaud, je pense que c'est le cas pour vous aussi, Steve aussi, moi je le prends quand on va faire un stage d'une semaine, comme c'était le cas au mois de mars là, cette année aux îles Canaries. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un masseur tous les soirs, mais par contre, de mettre le complexe sur les muscles, comme tu le dis, qui sont un petit peu contracturés après une grosse journée de sport, ça fait quand même du bien.
Ouais, exactement. Ouais. Je sais pas. Hein,
Alors moi, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, par les discussions qu'on a eues en interne au club. Et c'est vrai que pour l'instant, je l'utilise énormément. Enfin, je le découvre aussi, hein, mais je l'utilise énormément sur de la récupération. Surtout sur les quadriceps avec la partie home trainer là, qu'on a fait sur la partie de l'hiver. Et ensuite, j'essaye justement d'aller dans des programmes un petit peu de douleur et un petit peu soigner les tendinites. On a vu cette discussion justement sur la partie, la partie intérieure du mollet avec la tendinite du tendon d'Achille. Et puis, j'ai essayé 2-3 programmes sous la voûte plantaire. C'est un peu dur à dire. Hein. Alors, je ne l'ai pas fait sous 3-4 semaines. Mais c'est vrai que c'est un peu dur à dire vraiment les faits.
Et toi, Thomas, tu l'utilises aussi en récup, ton complexe, ou tu l'utilises aussi pour faire du renforcement musculaire?
Alors, principalement en récup comme vous, et depuis cette année aussi en renforcement musculaire. Sébastien en a parlé brièvement sur accéder à certaines couches musculaires, de fibres musculaires, notamment dans les travails de force avec des rotations par minute très faibles pour travailler justement les muscles du quadri et du quadri notamment avec le complexe et le home trainer simultanément. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais sinon, principalement des programmes d'oxygénation, de récupération active, c'est très efficace lorsqu'on n'a pas le temps, après une séance d'entraînement le soir, d'être à la maison et d'avoir ce genre d'outils, c'est vrai que c'est assez, assez pratique. Mais je voulais juste revenir sur un point que Sébastien mentionnait au début de l'enregistrement sur donc la guérison des blessures, mais notamment la prévention, lorsqu'on fait notamment des trêves hivernales, etc. Et on fait tous, je pense, 2 ou 3 semaines de trêve l'hiver. C'est important pour le corps, pour la tête. Sébastien mentionnait le fait de ne pas s'arrêter de courir. Et je pense que c'est un bon point. Et Sébastien, est-ce que tu peux, si on doit garder peut-être une séance de course à pied par semaine sur pour prévenir les blessures, est-ce que c'est une séance de footing vraiment tranquille pour garder la biomécanique, les tendons, les muscles, ou c'est une course un peu intensive?
Alors justement, tout à l'heure, je parlais des curseurs aussi, donc cardio, tendineux, musculaire. Et en fait, on se rend compte que ce qui va se déconditionner assez vite, c'est quand même tout ce qui va être tissulaire, donc tendineux, musculaire. Au niveau cardio, en revanche, ce qui sera limitant, ça va être effectivement que tu souffles un peu plus fort ou bien que tu ne puisses pas atteindre ta vitesse que tu faisais auparavant. Donc, il faut, quand tu es en trêve, il faut plus se baser sur le fait de faire un footing régulier, même à une allure très faible. Même avec, je sais pas, je donne souvent l'exemple de dire, profites-en pour aller courir avec le meilleur pote avec qui tu aimerais courir, mais à qui tu cours jamais parce que finalement, tu cours trop vite pour lui. Et là, c'est vraiment d'aller chercher un peu ce pote-là que tu vas accompagner au cours de ses sorties et plutôt footing et moins justement de faire des intervalles training. Maintenant, je te parle uniquement des trêves. Après, l'hiver, moi, je conseille plutôt d'être sur un entraînement qui va être basé plutôt sur justement des intervalles training, que sur du long. Parce que finalement, le long, l'hiver, on est au niveau énergétique avec la nuit qui tombe tôt. Et puis, en fait, on est tout le temps dans la nuit. Bah, en fait, ça bouffe beaucoup d'énergie. Et si tu es dans du long, ça te mange aussi beaucoup d'énergie. Donc, il vaut mieux en profiter pour faire du rapide à ce moment-là.
Donc voilà qui répond probablement à la question. C'est vrai que les pauses, donc moi j'essaye d'éviter de faire des pauses prolongées. Alors on parle de pauses volontaires. En début d'année, c'est vrai que j'ai fait une pause un petit peu moins volontaire, comme Steve va maintenant devoir en subir une. Au moment où je me retrouvais un petit peu dans ta situation, Steve, moi, c'est vrai que je me focalisais un petit peu sur la saison à venir. Je pensais à mes objectifs de demi-Ironman, d'Ironman qui allait tomber à l'eau à cause de cette blessure. J'avais des doutes sur quand j'allais pouvoir reprendre la pratique de tel ou tel sport. Je me souviens que quand le chirurgien est venu me voir pour m'expliquer l'intervention, moi, les questions qui me venaient à l'esprit, c'est quand est-ce que la prochaine fois je peux courir, je peux rouler, je peux retourner nager, plus que de m'intéresser à l'intervention lui-même qu'il allait pratiquer. C'est vrai que ben voilà, on se refait pas en tant que sportif. Comment est-ce que au niveau mental, maintenant, la blessure, Sébastien, comment est-ce que tu conseillerais à Steve d'appréhender la période à venir où ben voilà, il va falloir gérer cette frustration de ne pas pouvoir faire de sport, la peur, la hantise de perdre l'entraînement, et puis quel conseil est-ce que tu donnerais à des sportifs dans cette situation où vraiment là il y a une blessure qui immobilise complètement et pour une durée probablement de... Ben justement, tu disais qu'un sportif de plus de 30 ans ne devrait pas s'arrêter pendant un mois de faire du sport, mais là, Steve, il n'aura pas le choix. Je pense que pendant bien un mois, il ne va pas pouvoir repratiquer aucun sport. Donc voilà, on est dans le cas que tu dis qu'il ne faut pas aller. Donc maintenant, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour passer cette période le plus, avec le moins de dégâts possible, entre guillemets.
Alors après, il faut prendre la chose avec, je pense, philosophie, dans le sens où là, ce qu'il faut, c'est retourner un peu la situation et se dire, bon, ok, là, je vais être blessé pendant quelques temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans ma façon de m'entraîner? Peut-être se documenter. En fait, on parle beaucoup maintenant de patients experts. Plus vous êtes, vous connaissez un petit peu vos pathologies, vos douleurs, votre moyen de retour, mieux ce sera et moins vous ferez d'erreurs. Et l'idée, ça va être de vraiment reprendre de façon très régulière et de façon progressive. Et c'est toujours ce qu'on va donner comme conseil à nos patients. Parce qu'effectivement, bah, tout s'est déconditionné, que ce soit du tendon, aux muscles, aux os. Et à partir de là, il va falloir vraiment y aller régulièrement. Et on passe des étapes. C'est-à-dire que moi, la première étape que Steve, s'il vient au cabinet, la première étape que je vais lui demander, ça va être de sauter sur place. C'est ce qu'a fait Arnaud. Sautiller sur place pendant 30 secondes et d'avoir une progression sur sautiller. Moi, si à partir du moment il me dit « Ah, bah tiens, j'arrive à faire 10 fois 30 secondes de sautillement sur place », sans avoir de douleur au pied, ok, go, on commence à envoyer sur la course à pied, mais avec une minute de course, une minute de marche. Et là, si toutefois vous deviez, mettons, faire un break involontaire, mais des fois la vie, on arrête de faire du sport, bah, dans ces cas-là, c'est pareil. C'est comme si vous étiez blessé, vous êtes déconditionné physiquement. Et là, il faut reprendre les bases les unes après les autres. Il ne faut pas... pensez que votre corps s'est arrêté au moment où vous étiez au top et que vous allez reprendre le corps au même endroit, quoi.
Donc voilà, de la patience et puis finalement un petit peu de bon sens. On en avait déjà parlé dans un épisode passé du podcast, donc la reprise qui concernait la reprise sportive après le confinement pour les gens qui avaient arrêté totalement ou partiellement de faire du sport. Voilà, de ne pas repartir comme si le corps s'était mis en pause pendant 2 mois. En fait, il s'est désentraîné, voilà, il a subi ce temps-là. Et puis, il faut reprendre la pratique comme si on recommençait au début de la saison ou après une pause blessure ou volontaire ou peu importe. Mais voilà, reprendre progressivement parce que sinon, on court à la blessure.
avec de nouvelles bases, si on peut les mettre, ça peut être justement un nouveau rituel au niveau de l'échauffement, un nouveau rituel au niveau des étirements, une meilleure compréhension des étirements. C'est tout ce que Steve va apprendre maintenant. Il va puiser des nouvelles connaissances sur justement comment faire son sport.
Du coup, je rebondis par rapport à ce que j'ai écouté de mon chirurgien orthopédique ce matin. En fait, c'est encore un petit peu l'inconnu dans le sens que l'opération aura lieu jeudi. Ça sera en tout cas pour la fracture de la malléole externe. Donc, il y aura certainement une pose d'une plaque avec quelques vis pour maintenir le bazar, si je puis dire. Et puis encore, ce qui est inconnu, c'est que c'est le ligament. Le ligament, en fait, ils verront dans quel état il est que lors de l'opération. Donc, s'il n'est pas trop touché, je pense qu'ils n'auront pas grand-chose à faire, puis il va se remettre tout seul. S'il est plus gravement touché, je pense qu'ils vont aussi devoir l'opérer ou rajouter un bout de ficelle pour consolider le truc. Et puis après, ce que m'a dit le chirurgien, c'est que après l'opération, j'aurai pendant 6 semaines, j'aurai une botte avec des béquilles. Et puis après ces 6 semaines-là, lui, il voyait encore une durée de 6 semaines avant de pouvoir recommencer à courir. Donc ça fait 3 mois, et puis ça, on arrive à fin août, début septembre.
Mais tu pourras quand même, avant de courir, reprendre le vélo et la natation.
Alors ça j'espère, j'en ai pas parlé avec lui.
Effectivement, la difficulté, c'est la course à pied et... Mais avant tout ça, tu vas pouvoir effectivement, et ça sera hyper important pour justement ta cheville, de pouvoir reprendre la natation tranquillement avant, de reprendre le vélo tranquillement derrière. Et puis après, tu seras dans une dynamique positive sur le fait de reprendre le sport.
Ok, parce que c'est vrai qu'au début, tu parlais en fait... Comme chaque sportif, on connaît un médecin du sport ou on a souvent traité avec un médecin du sport. Là, je ne pense pas que ce matin, je parlais avec un médecin qui était spécialisé dans le sport. Il est chirurgien orthopédique. Alors peut-être qu'il n'aura peut-être pas les réflexes de parler justement d'autres sports que la course à pied. Ce sera peut-être moi, par rapport à mon expérience, de lui dire... Ça tombe bien, je fais du triathlon, donc je pense que recommencer en douceur avec la natation ou du vélo, ça devrait pouvoir le faire.
Ouais, ça fera partie même de ta rééducation. En fait, c'est le vélo et la natation font partie des éléments qu'on met en place avec le patient pour reprendre le sport.
Ok.
Non, c'est vrai que le retour au triathlon est plus simple parce que, comme le disait Sébastien, la course à pied, c'est un sport où il y a vraiment des chocs sur les pieds, les jambes, les chevilles, les genoux, etc. Mais par contre, on a quand même la possibilité de faire d'autres pratiques sportives. Et quand moi, je me suis éclaté le coude, je savais que la natation, ce serait vraiment le plus long pour revenir. Mais par contre, j'étais quelques semaines après déjà sur mon home trainer, alors dans des positions pas forcément super confortables. Mais effectivement, je tournais déjà les jambes et d'un point de vue arrêt de l'entraînement, c'est vrai que c'est alors déjà mental de pouvoir reprendre du pédalage, même si c'est encore avec le bras dans le plâtre, etc. Mais mentalement, ça fait déjà du bien. Et puis c'est vrai que déjà au niveau cardio, au niveau des muscles des jambes, des tendons, etc., ça refonctionne. Donc on a quand même une activité qui reprend. Donc voilà, effectivement, toi, du coup, vu la zone qui est touchée, ce sera peut-être plus la natation qui reprendra en premier, je pense aussi. Mais du coup, oui, je pense que ça va se faire avant les 12 semaines dont tu nous parlais tout à l'heure. En tout cas, je le souhaite vraiment pour toi. Donc on a déjà bien tourné autour du sujet du jour. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont d'autres questionnements par rapport aux blessures en tant que telles ou alors par rapport à leur prévention ou par rapport à cette thématique en général ? Arnaud, il nous a déjà bien fait part des petits soucis qu'il avait eus au cours des derniers mois. Thomas, toi, t'étais jamais embêté par les blessures ?
Je te dis, ouais. Non, pour l'instant, c'est vrai, pas. J'ai eu deux blessures récemment, là, sur 2 ans de tendinite après le GR20, donc surutilisation des mêmes zones musculaires, notamment du tendon d'Achille. Et l'année dernière, blocage du haut fessier et du dos, suite pareil, surutilisation home trainer, des intervalles ou de la force, sans réfléchir, sans planification, quand on a une heure après le boulot, un peu stressé, à fond les ballons, et c'est pas la bonne solution. Donc j'ai clairement appris de mes erreurs de ce côté-là. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aussi durant ce podcast, notamment aussi donc ce qui est étirement, le renforcement musculaire. Je pense que c'est la meilleure prévention aussi pour les blessures. Et après les cas d'accident comme Steve, voilà, on cherche aussi l'aventure, on cherche le fun, et puis parfois jusqu'aux limites, et on peut pas empêcher tous les accidents.
Ouais, effectivement. Et puis même sans chercher les limites, parfois bah il suffit de la mauvaise journée, le mauvais geste, ouais, et puis voilà. Hein, je veux dire, avec Steve, on ne démentira pas ça, parce que moi, en rejoignant ma voiture avec mes skis sur l'épaule, je cherchais ni le fun ni l'aventure. Hein, je cherchais juste ma bagnole pour rentrer chez moi. Et puis voilà, bah il arrive ce qui est arrivé. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres remarques, moi je remercie encore chaleureusement Sébastien de nous avoir rejoints dans ce podcast, Arnaud pour avoir témoigné de ce qui lui était arrivé au tout début de cette préparation Ironman de Thun. Maintenant, on a une année de plus pour se préparer pour cette grande épreuve, donc probablement que ça va aussi peut-être permettre de regarder l'avenir avec un tout petit peu plus de philosophie et puis moins de pression par rapport à ces petites blessures. Et souhaiter bon courage à Steve pour les jours qui s'annoncent pour l'opération, et puis que tu te remettes le plus vite possible de cette mésaventure.
Merci, c'est gentil.
Sébastien, avant de clore cet épisode, est-ce que tu nous laisses des coordonnées, un site internet où on peut te retrouver si on est intéressé à prendre contact avec toi ?
Enfin, d'après ce que je comprends, en fait, c'était pas votre année quand même, hein, tous les trois là, parce que entre le coup de la cheville et puis la fascite, c'est pas mal que ce soit reporté pour l'année prochaine.
Non, effectivement, ouais, je pense que là, on a fait très très fort, ouais.
On te garde occupé.
Ouais, bah, je vois. Pour coordonner, il suffit d'aller sur ostéokinétique.com, et puis là vous aurez pas mal d'infos sur les analyses de course qu'on a fait. Je cours un peu des fois j'ai couru une fois avec Arnaud. Bon, la prochaine fois on pourra parler d'éducatif de course alors.
Oui, alors c'est tout à fait un sujet qu'on pourrait aborder dans un futur épisode du podcast, pourquoi pas. Je pense que ça intéressera les coureurs à pied. Ce serait peut-être presque plus intéressant d'avoir un format vidéo, parce que en expliquant juste au travers de la voix du podcast, c'est toujours un petit peu difficile de décrire ce genre d'exercice, mais pourquoi pas organiser quelque chose autour de ça. En tout cas, les coordonnées, les auditeurs les retrouvent dans les notes de cet épisode s'ils veulent savoir un petit peu plus sur ton activité. Pour rappel, donc, tu es sur la région de Puy, donc autour de Lausanne.
Ouais, exactement.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à ce nouvel épisode de ce hors-série sur la préparation Ironman. Je me réjouis de vous retrouver dans 2 semaines pour traiter d'une autre thématique. Et puis, je vous souhaite à Arnaud et à Thomas bon entraînement, et puis à Steve un très très bon rétablissement suite à cette blessure.
Merci à vous tous.
Merci, Greg.
Merci.
Merci, ciao.
Ciao.
Ciao, bonne soirée.